Tempo Matin.
Accent 4, l'instant classique.
Bonjour Francis Dubois, vous êtes l'arrière-petit-fils de Théodore Dubois, compositeur français, né à Ronet en 1837 et mort il y a tout juste 100 ans, jour pour jour, à Paris. Vous êtes actuellement au Canada, à Montréal, précisément pour une série de concerts où l'on joue votre aïeul. Nous allons évoquer évidemment en votre compagnie la vie musicale française au tournant du siècle, avec ce brillant musicien, prix de Rome, premier prix d'orgue du Conservatoire de Paris et surtout directeur de cette prestigieuse institution. Nous y reviendrons certainement. Pourquoi, Monsieur Dubois, ne connaît-on pas mieux votre aïeul en France, 100 ans seulement après sa disparition ?
Ah ben c'est justement une question cruciale. Il y a de nombreuses raisons à cela, donc ça serait effectivement très long à expliquer. Il y en a quelques-unes que je peux vous signaler tout de suite. Il y a évidemment son attachement à la tradition, à une époque où on était plutôt tourné vers un certain modernisme, avec Debussy, Ravel et quelques autres. Donc ça lui a nui grandement, parce qu'il est resté accroché à cette idée qu'il fallait surtout ne pas abandonner trop les pratiques en musique classique du passé. Et donc la nouvelle génération n'a pas toléré ça, et ça... Il s'est fait beaucoup, beaucoup d'ennemis de cette façon-là. Ensuite, il y a eu évidemment, vous me le signaliez dans le mail que vous m'avez adressé, l'affaire Ravel, dont on l'a accusé de façon peut-être un peu excessive, parce qu'en réalité, c'était tout un jury qui décidait si Ravel avait le droit de présenter le prix de Rome ou pas. Donc, il faisait partie du jury, et on ne sait pas comment lui a voté en réalité, parce qu'on n'a pas retrouvé les documents.
C'est vrai, il ne le confie pas, et d'ailleurs il a fait partie de beaucoup de jurys du prix de Rome, notamment celui de Lili Boulanger en 1913. Il est très fier, il l'écrit dans son journal, très fier qu'elle ait pu obtenir cette prestigieuse récompense. Mais alors son style, Monsieur Dubois, est-ce qu'il est perçu comme trop ancien dans cette période ?
Ben un petit peu, mais il était quand même très très apprécié. Pendant une grande partie de sa vie, jusque vers les 10 ou 20 dernières années, il était énormément joué. C'était un musicien, un compositeur apprécié à Paris et même à l'étranger. Il était joué aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique, etc. Il raconte tout ça dans ses mémoires. Mais effectivement, il était toujours attaché à ça et il a développé peut-être un petit peu, de façon un tout petit peu excessive, à mon avis, si je puis me permettre, c'est une offense que je lui fais peut-être, c'est son attachement à la tradition, et les compositeurs de la nouvelle génération l'ont senti comme un ennemi, comme quelqu'un qui ne voulait pas d'eux. Voilà.
Et alors, malgré ce succès plus ou moins populaire, nous n'avons toujours pas aujourd'hui d'enregistrement de ces mélodies, de ces opéras. Pourquoi alors, donc ? Est-ce que les programmateurs sont frileux quant à Dubois ?
Alors là, je vais peut-être vous informer de façon intéressante, parce qu'il y a... vous devez connaître le site de notre association qui est sur Internet et où sont présentés une cinquantaine de disques de musique de Dubois, dont des disques de mélodie, et récemment même à l'intérieur de certains disques faisant partie de la liste des compositeurs dont les mélodies sont interprétées, par Véronique Gens, par Sandrine Pio, etc. Vous voyez des gens extrêmement connus actuellement, et qui adorent la musique, les mélodies de Dubois. Donc, mais ça, je ne parle là que des mélodies, mais... si vous consultez notre site, vous allez voir qu'il y a 50 disques avec symphonie, concerto pour violon, etc., etc. Il y a énormément, énormément de choses. Il est sorti de l'ombre de façon spectaculaire.
C'est très complet, effectivement. On a beaucoup de musique de chambre, on a pas mal de musique d'orgue, parce qu'avant tout, Dubois, c'est aussi un organiste. Mais par rapport aux mélodies, en fait, on n'a pas du tout d'enregistrement intégral. Plusieurs fois, il y a des petites œuvres qui sont par-ci, par-là, sur des disques noyés au milieu d'autres compositeurs. Oui. Mais ce n'est pas encore le cas de Dubois. On n'a pas d'intégrale de ces mélodies. Mais sur ces opéras, pour le coup, là, j'ai vraiment regardé regardé à la lettre votre site et aucun enregistrement intégral. Est-ce qu'on a du mal à trouver ces partitions? Est-ce que les programmateurs ont peur que le public ne soit pas présent le soir où on donne du bois?
On parvient maintenant à trouver ces partitions plus facilement à l'ABN parce que l'ABN les avait gardées, en avait gardé une bonne partie dans des cartons et c'était abstenu de les sortir des cartons et de les répertorier. Et maintenant, elles sont même numérisées. Donc, on arrive à se procurer des partitions de Dubois très, très facilement, numérisées. Donc, ça, c'est très intéressant. Jean-Claude Malgoire a fait renaître un opéra de Théodore qui s'appelle Aben Hamet. Et il en a fait un enregistrement qui, je crois, est dans le commerce. Mais malheureusement, il n'avait pas la partition d'origine. Il n'avait pas la partition d'orchestre d'origine. C'est lui qui l'a reconstituée. Mais maintenant, on a retrouvé cette partition et j'espère que quelqu'un va reprendre cette œuvre parce qu'elle est vraiment très, très intéressante, très belle. Et ici au Canada, a été donnée l'été dernier dans le cadre du festival, a été donnée pour la première fois une œuvre qui était encore à l'état de manuscrit, qui s'appelle Miguela et qui est fort intéressante et qui mériterait d'être reprise et mise à disposition du grand public.
Et enregistré, et puis effectivement...
Voilà, c'est ce que j'espère, c'est ce que j'attends.
Croisons les doigts.
Oui.
Qu'avez-vous, justement, comme objet personnel inédit du compositeur? Est-il envisageable, un jour, d'ouvrir un musée?
Alors ça, c'est quand même beaucoup plus difficile, parce que j'ai bien certaines petites choses, j'ai des photos, j'ai quelques objets, il aimait beaucoup les bronzes, il achetait des bronzes du fondeur barbedienne, etc. Mais il n'y a pas de quoi en faire un musée quand même. Puis je ne sais pas qui ça vraiment intéresserait beaucoup. Mais non, ça je pense que pour le moment c'est vraiment exclu. Ou alors il faudrait faire un travail considérable. Et j'ai atteint un âge qui ne me permet plus de me consacrer totalement à ce genre de choses. Même si ça m'intéresserait, bien sûr.
Et ça intéresserait certainement aussi le public de musiciens, de mélomanes, qui aiment bien Dubois, mine de rien, parce que, alors, chez les organistes, on l'a dit, c'est vraiment un passage obligatoire, mais aussi chez tous les professeurs de formation musicale, parce que Dubois laisse son nom à plusieurs traités.
Ah ben oui, que de fois ai-je entendu « Ah, Dubois, le traité d'harmonie, on a tellement souffert là-dessus, vous savez !» Voilà, ça lui a pratiquement d'une certaine façon, ça lui a nui parce qu'on a réduit sa production musicale à en fait une œuvre de théorie qui a eu beaucoup de succès puisqu'elle a été dans tous les conservatoires de France et à l'étranger. Hein.
Et qui est, mine de rien, le symbole d'une génération. Une génération qui a effectivement beaucoup travaillé là-dessus. Je m'entretenais encore avec Xavier Gagnepain, un violoncelliste de renom, qui a travaillé là-dessus et me disait, justement, me confiait, enfin, c'était trop, on l'a trop lu, ce document. Donc, effectivement, il y a ces deux tendances. Mais malgré tout ça, on a une prédominance de la musique sacrée dans l'œuvre du Dubois. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi il a une telle fascination pour l'Église alors que la France se laïcise de plus en plus?
Eh ben, c'est-à-dire qu'à l'époque, en tant qu'organiste, il avait aussi des fonctions au sein de l'Église, ou des cathédrales où il a œuvré, où il a joué. Et donc il lui fallait toutes les semaines produire de nouvelles œuvres pour l'Église. Donc c'était un petit peu son travail, sa responsabilité. Mais autrement, je pense que ce n'est pas l'essentiel de sa production, loin de là. Parce qu'il a énormément produit de choses passionnantes, et les œuvres d'orgue ont d'ailleurs été publiées récemment chez Bärenreiter, le grand éditeur allemand. Donc on peut disposer de toutes ces œuvres pour orgue, mais ce n'est pas de cette musique-là qui est le plus joué, loin de là. Hein. Non, on se trompe quand on le réduit à la musique d'orgue qu'il a énormément, dont il a produit beaucoup de d'œuvres, mais ce n'est pas l'essentiel de son travail et de l'intérêt qu'on peut lui porter.
Et alors autre chose, à part cette musique sacrée, effectivement, qui est peut-être un peu réductrice, il avait, semble-t-il, un fort caractère. Que pouvez-vous nous dire là-dessus?
Ah ben, c'était un campagnard, il était d'une famille, je ne sais pas si c'est le moment d'aborder la question, il était d'une famille très humble, Son père était vannier, il avait un tout petit lopin de terre où il faisait un petit peu de vin, mais ils étaient pauvres, archi pauvres, et rien ne le prédestinait à ça. Bon, dans ses mémoires, il le raconte, mais il est allé un jour à la cathédrale de Reims, je raconte ça parce que c'est quand même intéressant, avec ses parents pour une cérémonie où il a entendu l'orgue. Il a été tellement impressionné qu'en rentrant, il avait 8 ans. Il a dit à ses parents, je vais être musicien. Et ses parents, de façon tout à fait surprenante et très intelligente, lui ont dit, bah, d'accord. Et ils se sont débrouillés pour pouvoir financer quelques petites leçons avec les quelques personnes dans le secteur qui pratiquaient un petit peu la musique. Et puis petit à petit, il a avancé, il a été aidé par un certain comte qui habitait à Rosné, son village natal, enfin, 15 km de Reims à peu près.
Le vicomte de Breuil, tout à fait.
Ouais. Exactement, qui l'a financièrement aidé, a aidé la famille. Et c'est ainsi qu'il s'est préparé à l'entrée au conservatoire de Paris, où il a été élève avant d'être professeur.
Et il en ressort brillamment, au point d'avoir plusieurs prix. Le prix de Rome, on l'a dit, on l'a déjà évoqué aujourd'hui. Et puis, un grand nombre de connaissances du monde de la musique. Mais sur son caractère, moi j'ai des points très précis dans son journal, parce qu'il est publié aux éditions Symétrie, en partenariat avec le Palazzetto Bruzzani. Il nous dit, par exemple, début de l'année 1913, 18 janvier pour être précis, je vais à l'Institut où notre confrère Paul Richert nous fait une conférence sur l'authenticité du crâne de Descartes qui est au muséum. On n'est pas beaucoup plus avancé après qu'avant. Le 14 juillet de la même année, il nous dit « Fête nationale, j'offre le champagne aux pompiers. Il faut bien faire de la popularité. » Qu'est-ce qu'on a effectivement, il y a ce côté campagnard, un peu de mise en avant, de j'existe, d'un besoin de reconnaissance aussi, finalement. Mais qu'est-ce que ça veut dire du personnage? Est-ce que ce trait d'humour était apprécié partout?
Ça, c'est difficile de répondre à votre question. Moi, je pense qu'il avait un caractère. Il savait ce qu'il voulait. Il était d'un caractère décidé, peut-être un peu autoritaire. Il tenait à ses idées. Il ne voulait pas en démordre. Et c'est ça, je pense que ça, malheureusement, ça lui a été par moments extrêmement défavorable. Par ailleurs, je pense que c'était quelqu'un de très bon, de très généreux. Ça nous a été confirmé d'ailleurs par un grand oboïste qui s'appelle Lajos Lenkses, un Hongrois qui a enregistré tout ce qu'il a écrit pour tout ce que Théodore a écrit pour hautbois.
Un grand disque de musique de chambre, oui, qui est sorti il y a une dizaine d'années.
Voilà, c'est ça, exactement. Et qui est venu nous rencontrer pour récupérer des partitions, etc. Il nous a dit, c'est un homme bon. Il l'admirait beaucoup en tant que musicien et aussi en tant qu'être humain. Et connaissant Lajos Lenkses, comme nous l'avons connu, c'était vraiment extrêmement agréable d'entendre ça dans sa bouche. Et je crois que c'est vrai. D'ailleurs, dans ses écrits, très souvent, il parle des gens humbles, avec beaucoup de sollicitude, de générosité, de gentillesse. C'est pas quelqu'un qui méprisait, qui était capable de mépris ou de marquer sa supériorité. Pas du tout. Et il était fier. Il était fier d'être arrivé, lui, fils de petit paysan, à une belle situation, et à être quand même extrêmement connu à l'époque, et directeur du conservatoire, et prix de Rome. Mais c'était pas par orgueil, c'était parce que il se réalisait.
Est-ce que justement, ces responsabilités dont il avait la charge à l'Académie française, au conservatoire de Paris, est-ce qu'il avait les épaules suffisamment solides pour toutes les endosser?
Je pense, d'après tout ce que j'ai lu sur lui, je pense, oui. Oui. Mais il a été malheureusement combattu par pas mal de gens, parce qu'il disait aux gens ce qu'il pensait. Et il s'est beaucoup plaint dans ses écrits d'une certaine hypocrisie, aussi de gens qui essayaient de tirer profit du fait de le connaître pour faire avancer ou faire entrer au conservatoire leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Et ça, il détestait. Il ne se prêtait jamais à ce genre de choses, et donc il ne s'est pas fait que des amis.
Pourquoi est-ce que subitement, Théodore Dubois commence un journal le jour anniversaire de ses 75 ans? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il mette par écrit tous ses sentiments qui sont aujourd'hui une véritable mine d'or?
Écoutez, je n'y étais pas, je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas, mais je trouve ça absolument admirable, d'autant plus qu'il avait, pour quelqu'un qui n'avait pas fait d'études secondaires, Il n'avait pas pu parce qu'il s'était entièrement consacré à sa formation musicale. Et c'est quelqu'un qui était arrivé à un niveau culturel extraordinaire. Et il a une écriture, j'ai les cahiers manuscrits, je les ai à la maison bien sûr. C'est quelqu'un qui écrit remarquablement, sans jamais la moindre faute de français, avec un style et un vocabulaire fabuleux. C'est extraordinaire. Non, mais il était très très doué, vraiment.
Mais à la manière de Gide, de Green ou de Cocteau, il fait part, à travers ce palimpseste, des faits et gestes de son époque, ce qui est aussi très intéressant à lire de l'extérieur pour quelqu'un qui ne connaîtrait absolument pas le monde de la musique ou du bois dans ce début du XXe siècle. Il se trouve que la période d'écriture est particulièrement intéressante sur le plan historique puisque se dessine en creux une guerre qui va devenir mondiale. On a un réel témoignage de cette première guerre mondiale à travers un Français sans cesse changer de village, de ville pour fuir absolument les combats.
C'est ça. C'est ça. Et il a été très très malheureux de cette guerre, d'autant plus que son village a été bombardé, sa maison a été en grande partie détruite. Et vous me parliez tout à l'heure des objets que l'on pourrait peut-être rassembler dans un musée, et je pense que beaucoup ont disparu pendant cette guerre, parce qu'il vivait plusieurs mois de l'année dans son village natal, qu'il adorait. Il adorait cette villa, cette ville campagnarde. Et donc, dès qu'il pouvait, il quittait Paris, les salons parisiens, qu'il ne fréquentait pas suffisamment. D'ailleurs, peut-être, à mon avis, ça lui aurait été utile. Et il en fréquentait quelques-uns, mais pas beaucoup. Donc, il revenait à René 3-4 mois par an, quand c'était possible, et où il vivait de cette façon rustique, en quelque sorte, tout en pratiquant ça, en composant, en continuant à composer, et en jouant certaines œuvres avec sa femme, qui était une excellente pianiste.
Il semblera effectivement, il laisse plusieurs fois sur le papier quelques encouragements, quelques applaudissements du public, vraiment une reconnaissance vis-à-vis de son épouse. Il a un caractère fort, vous le disiez tout à l'heure,
oui, très
mais
fort.
Que dire en ce qui concerne ses opinions politiques d'avant-guerre ? Est-ce qu'il a une opinion très arrêtée ? Est-ce qu'il en veut à cette France, au gouvernement, qui ne voit pas la guerre arriver ?
Oui, il était extrêmement lucide et il a vu tout ça arriver de loin et il en voulait effectivement aux gens au pouvoir à cette époque-là. Et il n'était à aucun parti, mais je dirais qu'il était plutôt de tendance centre-gauche un petit peu, parce qu'il était très sensible à la misère, etc. Et donc il aurait aimé que ça améliore le sort des classes populaires. Il n'avait pas du tout un esprit aristocratique ou de caste. Il détestait ça. Donc c'était quelqu'un qui était très ouvert de ce côté-là.
Ce qui explique peut-être aussi sa mise à l'index tardive. Et malgré ça, il murmurait, semble-t-il, quand même à l'oreille des présidents successifs de la Troisième République.
Ben, je crois qu'à l'époque, le directeur du Conservatoire de Paris, c'était un personnage important. D'ailleurs, il relate souvent des invitations à l'Élysée, etc. Il s'était fait beaucoup de connaissances, mais à la fois des amis, beaucoup d'amis et beaucoup d'ennemis. Voilà.
Et leur second point, qui ressort à plus d'un titre de ce journal, c'est évidemment la priorité accordée à sa famille. Il voit par exemple grandir sa petite fille. Il semblerait que ce soit votre mère, donc, Jacqueline.
C'est ça, exactement.
Est-ce que la description qu'il en fait a été relatée après, dans les années où elle a été plus grande? Parce qu'il la voit du berceau à ses 15 ans.
Oui, à peu près. Après, pour en savoir davantage, il faut consulter les mémoires de son fils, Charles, qui était un universitaire de haute volée, qui a fait l'école normale supérieure, etc. Et qui s'est beaucoup occupé de moi, de son petit-fils, parce que Jacqueline m'a mené une vie un petit peu dissolue, donc je ne l'ai pas beaucoup connue. Voilà. Et ça, c'est une petite confidence.
Il semblerait qu'il avait un deuxième fils aussi qui est mort plus jeune, avant 10 ans. Il n'en parle pas du tout. C'est assez rare de trouver des informations là-dessus.
Il en parle pour dire à quel point il a été touché et malheureux, mais après, effectivement, il n'en parle pas du tout. Mais il est mort très jeune. Il est mort à 8 ans d'une je ne sais plus quelle maladie il avait, mais enfin, c'était quelque chose qu'à l'époque, on ne pouvait pas soigner. Et ça a été un gros malheur dans la famille, mais bon, il en est resté un charme. Et voilà.
Qu'est-ce que vous pouviez encore nous apprendre sur Théodore Dubois ce matin? Qu'est-ce que vous avez encore
ajouté? Ce que je peux vous dire, c'est que Théodore Dubois est resté pour moi pendant une grande partie de ma vie, la plus grande partie de ma vie, pratiquement un étranger. Parce que j'avais moi-même toutes mes occupations avec mon épouse. J'étais professeur d'allemand, elle était professeure de français, et nous n'avions pas, je faisais aussi autre chose, beaucoup de choses, et nous n'avions pas le temps de nous occuper de Théodore Dubois. Et puis je m'étais toujours promis qu'en prenant ma retraite, je me consacrerais à faire redécouvrir Théodore Dubois. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons été fortement aidés par le Palazzetto au Bruzane, bien sûr, comme vous le savez, avec Alexandra Vicky. Et nous avons eu aussi la chance de faire la connaissance de plusieurs musiciens canadiens qui ont, eux, toujours eu beaucoup d'intérêt pour la musique de Dubois ici au Canada. C'est incroyable d'ailleurs. Les Sept Paroles du Christ et bien d'autres œuvres ont été régulièrement jouées. Et c'est grâce à ces personnes-là que Dubois est sorti de l'ombre. Et puis après, il y a bien d'autres personnes qui ont œuvré aussi dans ce sens. Et je m'en réjouis, je les en remercie.
Et de fil en aiguille, deux publications, le journal et puis ses mémoires, souvenirs de ma vie, et puis une foule de discographies, une discographie vraiment sélective, très, très dense, mais qui a encore quelques années devant elle pour être parfaitement complète.
Merci. Ah oui, il y a encore des disques qui viennent de sortir là, c'est récemment, et je suis même étonné que... J'ai l'impression qu'on s'intéresse de plus en plus à lui, quoi. Avant, c'était un inconnu, moi, il faut bien le dire. Pendant longtemps, de 1900, disons, de sa mort, 1924, à 2000 à peu près, à l'année 2000, on ne connaissait de Dubois que son traité d'harmonie et les Sept Paroles du Christ. Voilà, pratiquement. Et puis là, depuis, ça a complètement changé. Maintenant, tout le monde connaît Dubois. Là, il y a des gens qui l'apprécient vraiment beaucoup. Voilà. Et je m'en réjouis. J'ai l'impression d'avoir quand même réussi dans mon projet.
Mais merci beaucoup, merci pour cet engagement, merci pour ce petit moment que vous accordez ce matin à Accent 4.
Bonne plaisir pour moi.
Merci, plaisir partagé. Bonne continuation, Francis Dubois. Je rappelle, vous êtes toujours l'arrière petit-fils de Théodore Dubois.
On me dit le petit-fils. Je dis non, c'est pas possible. Je suis l'arrière petit-fils. Et sa petite-fille, non. Qu'est-ce que je te raconte? Ma fille, donc son arrière-arrière-petite-fille, est pianiste et joue ses œuvres de temps en temps.
Et ben voilà, le cycle est bouclé.
Le cycle est bouclé, exactement.
Merci beaucoup, bonne soirée, bon après-midi.
Merci aussi, je vous remercie beaucoup. Merci.
6h, 10h, Tempo Matin.
Accent 4, l'instant classique.